podcast.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur On Air, le podcast de l'Université Toulouse Jean Jaurès. On Air qui vous propose de tout comprendre sur un sujet de recherche, le temps d'un trajet en métro ou en bus. 12 minutes en tête-à-tête avec une ou un chercheur. Je m'appelle Sophie Cholec, je suis journaliste et aujourd'hui c'est une historienne que je rencontre pour parler d'un sujet ô combien d'actualité, la Russie. La Russie que l'on voit, que l'on entend dans les médias et surtout celle que l'on n'entend pas et qui pourtant existe. Bonjour Natacha Laurent.
Bonjour Sophie.
Vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université Toulouse Jean Jaurès, chercheur spécialiste de la Russie et de l'Union soviétique au sein du laboratoire Framespa, c'est le laboratoire France-Amérique-Espagne, société pouvoir acteur. Et je précise que vous êtes aussi spécialiste du cinéma russe. Alors Natacha Laurent, une date est évidemment tristement entrée dans l'histoire, c'est le 24 février 2022 lorsque la Russie a envahi l'Ukraine et depuis, eh bien, il ne se passe pas une journée sans que cette guerre nous soit rapportée dans les médias. Or, côté russe, Natacha Laurent, force est de constater que la seule voix qu'on entend, c'est celle de Vladimir Poutine, le président russe. Comment vous expliquez ça ?
Alors, seule voix que l'on entend, disons officiellement, puisque la Russie est devenue une dictature, digne de ce nom, et que donc toute voix discordante, toute voix libre, toute voix différente, tout simplement la différence n'est plus possible en Russie. Et donc c'est un pays qui s'est complètement verrouillé au fil des ans, hein, depuis 1999, donc depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir. C'est vraiment 25 ans continus de concentration des pouvoirs, d'élimination des oppositions absolument systématiques et d'un régime qui s'est installé par la guerre, par la violence, par la peur. Donc on comprend que dans des conditions pareilles, il soit difficile d'entendre d'autres voix que celles de Vladimir Poutine et de ses soutiens, puisque quand on écoute les médias officiels, on entend effectivement que ce discours qui est un discours de haine à l'égard de l'Ukraine, un discours de haine à l'égard de l'Europe, un discours ultranationaliste et qui instrumentalise de façon absolument frauduleuse l'histoire de la Russie, l'histoire de l'Union soviétique, l'histoire de l'Ukraine et qui transforme absolument systématiquement la réalité, la déforme à des dessins qui sont vraiment un dessin d'occupation et de recolonisation.
Mmh. Mais l'opposition russe, elle existe ou pas ?
C'est toute la difficulté, c'est toute la grande question que tout le monde nous pose à chaque rencontre. Mmh. C'est la question que l'on pose, existe-t-il une autre Russie ? Alors, c'est très difficile dans une situation de guerre. Il est impossible, évidemment, de mener des sondages. Donc, c'est une appréciation, on va dire, très pragmatique que l'on peut avoir. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a une grande majorité de gens qui ont peur, que la peur est un outil absolument fondamental de la gestion du pouvoir de Poutine. Il existe des voix discordantes qui sont célèbres, celles de tous les opposants qui se font arrêter les uns après les autres. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Navalny, bien sûr, qui est emprisonné, mais il y en a d'autres à l'extérieur et à l'intérieur. Et il y a, il faut le dire, des Russes extrêmement courageux qui continuent contre vents et marées à défendre leur position, qu'il s'agisse de journalistes, qu'il s'agisse d'avocats, qu'il s'agisse d'historiens, qu'il s'agisse d'hommes et de femmes de lettres ou d'artistes. Ils sont peu nombreux, mais ils sont systématiquement éliminés. Il faut bien voir qu'en 2012, donc il y a un peu plus de 10
Quand
ans...
Quand vous dites éliminés, c'est-à-dire ?
Éliminés, c'est-à-dire arrêtés, jugés, condamnés, et enfermés dans des conditions absolument terribles, qui sont des conditions vraiment de déportation.
Oui. Alors revenons à ces voix d'opposition dont vous parliez. Celles qui sont encore en Russie, comment elles peuvent s'exprimer et nous parvenir à nous ?
Alors, celles dont je vous parle, dès qu'on s'exprime publiquement, on s'expose évidemment à des arrestations et à des violences, à des agressions, à des intimidations.
À
une répression immédiate. Donc ça, ils sont très peu nombreux, ils sont de moins en moins nombreux. Vous avez beaucoup de gens qui sont partis. On a beaucoup de mal à savoir exactement combien, depuis quand, mais on parle très largement de 800 000, 1 million de personnes qui sont parties, ce qui est considérable depuis le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine. Qui est parti ? Les plus jeunes, les plus instruits, les plus ouverts vers l'Europe. Autrement dit, un potentiel pour la Russie qui est aussi considérable. Mmh. Un potentiel peut-être de contestation quand on s'appelle Poutine, mais aussi un potentiel économique, un potentiel politique, un potentiel démocratique et démographique qui s'est exilé soit en Europe, soit en Géorgie, soit en Arménie. Et puis il existe alors ceux que l'on a évidemment le plus de difficultés à appréhender, parce que c'est ceux qui œuvrent dans la clandestinité. Mais il existe des mouvements clandestins. Par définition, on ne peut pas les connaître aujourd'hui, parce qu'ils prennent des précautions tout simplement pour se couvrir. Mais il existe des mouvements clandestins. L'un des plus célèbres, c'est ce qu'on appelle le FAS, c'est-à-dire un mouvement donc féministe anti-guerre, hein, une résistance féministe anti-guerre, qui a été fondée au moment justement, dès le lendemain de l'invasion, et qui rassemble les femmes. Qui rassemblent les femmes qui s'opposent à la guerre, quel que soit leur âge, quelle que soit la région. Le FAS, il faut quand même savoir que c'est un mouvement qui est implanté dans 120 villes de Russie. Et les actions de résistance sont très variables. Vous pouvez avoir la résistance, ça peut être tout simplement de ne pas dénoncer quelqu'un qui a pris position contre la guerre. Ça peut être un acte de résistance. Ça peut aller beaucoup plus loin. On peut aussi aider à localiser des enfants ukrainiens qui ont été déportés en Russie. Les localiser et faire remonter l'information par des réseaux pour qu'en Ukraine, enfin, en tous les cas que ceux qui ont la possibilité d'exfiltrer ces enfants aient les informations. On peut aller bien sûr beaucoup plus loin et passer à l'action militaire et à l'action armée. Et c'est ce qui s'est passé lorsque, dans deux cas récents, on a des militants ultranationalistes pro-poutiniens qui ont été la cible d'attentats. L'un en est mort et l'autre a été très grièvement blessé. Ce sont des mouvements, voilà, de clandestins de l'intérieur qui ont des ramifications à l'extérieur. C'est évident, sinon seul, ils n'y arriveraient pas. Alors, bien sûr, ce sont des mouvements qui sont très modestes, mais ils existent. Il ne faut pas imaginer que la Russie, dans sa totalité, est devenue poutinienne, même si la grande majorité, finalement, de la population russe, c'est ce qu'on dit souvent, elle est relativement indifférente. Elle considère que c'est quelque chose qui, finalement, ne la concerne pas directement. Il y a une tradition en Russie très, très ancienne.
Elle est indifférente à la guerre ?
Indifférente aux politiques. Ah. C'est-à-dire que c'est un contrat hein, qui est passé, qui remonte aussi à des origines historiques, qui a été renouvelé par Poutine, qui est de dire on vous laisse tranquille, mais vous, vous nous laissez tranquille. Donc, à nous, la gestion du politique, et vous, on vous laisse dans votre coin, on ne vous touche pas, vous ne faites rien, mais vous nous laissez gérer, vous n'êtes pas capable de participer aux politiques, vous n'êtes pas capable de gérer, nous on est capable. Et donc ça c'est un rapport difficile pour nous à comprendre, hein, parce que c'est évidemment pas du tout, c'est pas du tout un contexte démocratique.
Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur ces oppositions, ces mouvements qui peuvent être modestes mais qui existent. Première question, qu'en est-il de la jeunesse ?
Alors la jeunesse, là aussi c'est très difficile. C'est très difficile de généraliser sur cette population. Parce qu'en fait on oublie aussi que la Russie n'est pas un pays homogène. C'est pas une société homogène du tout. C'est une société très très fracturée, avec des différences colossales. Colossales sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan ethnique, sur le plan confessionnel. Il faut quand même rappeler que la Russie c'est une fédération. Que les Russes dominent la population sur le plan démographique, mais qu'il y a plus d'une centaine d'ethnies dans la Fédération de Russie. Hein. Donc ça, c'est une dimension très importante. Et il est évident que quand on est une jeune femme instruite, diplômée, qui vit à Moscou, qui travaille à Moscou, on n'a pas forcément le même accès à l'information et à une information, on va dire, un peu plus objective que quand on est une vieille femme au fond de la Sibérie, qui n'a pas d'autre accès à l'information que la télévision officielle d'État. Et en même temps, on a souvent dit que finalement la jeunesse était plutôt hostile à Poutine et que c'était plutôt l'électorat de Poutine et les soutiens de Poutine étaient plutôt âgés, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Il y a aussi beaucoup de... Il y a des histoires individuelles qui sont différentes. Il y a des histoires individuelles dans les familles qui sont différentes et qui font que les gens réagissent aussi différemment. Mais ce qui est sûr, c'est que la jeunesse, elle est incontestablement plus connectée que les anciennes générations.
J'imagine que ça joue un rôle.
Ça joue un rôle très important parce que, certes, en Russie, vous n'êtes pas censé avoir accès à Facebook, vous n'êtes pas censé avoir accès à toutes sortes d'informations étrangères, puisqu'elles sont censées être suspectes, puisqu'étrangères, mais il vous suffit d'avoir un VPN et vous avez accès au monde entier. Donc, voilà, cette dimension-là, c'est que c'est clair que la jeunesse a les outils techniques pour accéder à une information plus objective. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle a les outils, on va dire, intellectuelle, qu'elle a reçu une instruction suffisante pour aller chercher ces outils-là. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une propagande qui est inimaginable dans notre pays. On n'imagine pas ce que signifie la propagande poutinienne, ce que ça signifie de matraquage, de massification, de détournement absolument mais systématique de la réalité.
Unique, ouais.
C'est un récit unique, mais qui est redoutable parce qu'il n'est pas entièrement faux. Et on sait que le pire des mensonges, c'est celui dans lequel on distille un tout petit peu de vérité. Mmh. Et c'est comme ça que fonctionne le récit poutinien. Il suffit, on prend un exemple, la Seconde Guerre mondiale, qui est absolument le fondement de l'idéologie poutinienne et le fondement de l'argumentation qui valide l'invasion de l'Ukraine.
Oui.
Personne va nier le fait que l'Union soviétique a participé à la victoire sur le nazisme. On sait qu'il y a eu plus de 25 millions de morts, qu'ils ont sacrifié une population, qu'ils ont été héroïques. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sauf que Poutine transforme cette réalité en faisant de l'Union soviétique, donc de la Russie, donc de lui-même, le seul vainqueur des nazis, et considérant que le reste du monde est devenu nazi. Il y a plein d'exemples comme ça qui montrent que l'histoire est systématiquement, mais systématiquement détournée. C'est-à-dire qu'on en arrive vraiment à quelque chose qui est frappant pour une historienne comme moi. C'est-à-dire que l'histoire est un instrument de destruction massive dans les mains d'un régime comme celui-ci.
C'est propre aux dictatures aussi, ça, de faire ça.
Oui, les dictatures ont besoin d'un passé glorieux pour...
Staline le faisait déjà.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que la Russie a une longue tradition. Une longue tradition et puis une capacité aussi de maîtriser la propagande de façon, on va dire, rigoureuse, efficace. Ils ont quand même... Je veux dire, les bolcheviks ont quand même, dès 1917... confier à la propagande un rôle absolument central, que ce soit par le cinéma, la peinture, la littérature, les affiches, les discours, les meetings, etc. Et ils ont une expérience que peu de pays occidentaux ont sur ce front-là. Alors ils l'ont adapté avec les nouvelles technologies, bien évidemment, qu'ils maîtrisent formidablement bien, mais cette fameuse guerre hybride, elle emprunte beaucoup, bien sûr, aux techniques de propagande.
Il y a la propagande, mais vous, les autres récits, vous les captez, vous, en tant qu'historienne, comment ?
Alors, les récits d'opposition, on va les chercher sur les réseaux. Mmh. On va les chercher sur les réseaux de façon complètement détournée, par le biais de relais aussi, d'ONG, comme par exemple Mémorial, ouais. Mémorial International, qui a été cette association qui est née à la fin de la perestroïka en 1989 pour précisément enquêter sur les crimes staliniens et qui est devenue ensuite aussi une association qui a milité pour les droits humains en Russie lors des guerres de Tchétchénie, lors de la guerre en Géorgie, etc., etc., et qui a été dissoute à la fin de l'année 21, donc quelques mois simplement avant l'invasion massive de l'Ukraine. Donc tout ça, c'est très, très, très cohérent. Et une association comme Mémorial s'est réinventée à travers des antennes européennes. Et ces associations sont aussi des relais, bien évidemment, qui nous permettent d'entendre ces voix et de soutenir ces voix.
Mmh. Vous êtes, je l'ai dit en début de ce podcast, spécialiste du cinéma russe. Qu'en est-il du cinéma en Russie aujourd'hui ?
Alors le cinéma...
C'est une expression culturelle, donc
oui.
J'imagine qu'elle est menacée.
Elle est menacée, c'est-à-dire que c'est toujours pareil. C'est-à-dire que les films, il y a plein de films qui ont été faits avant 2022 et qui ont beaucoup de mal à sortir ou qui ne sont pas sortis parce qu'ils sont considérés comme suspects, parce que trop libres. Aujourd'hui, il est impossible... En Russie, c'est clair, il est impossible de faire un film qui n'entre pas dans le récit poutinien. C'est totalement illusoire.
Pourtant, il y a des films qui nous arrivent, là.
Oui, il y a des films qui nous arrivent, et je pense à trois films qui ont été magnifiques cette année, en 2022-2023. Trois films différents, deux films qui viennent de Russie, un film qui vient d'Ukraine. Le premier, c'est La femme de Tchaïkovski. La femme de Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov, qui est un film sur le 19e siècle et donc sur l'épouse de Tchaïkovski, qui est un film emblématique d'un très grand réalisateur russe qui a été invité dans de multiples festivals de cinéma, qui a été primé, qui est connu, reconnu. Le film est absolument sublime, magnifique. Il n'a pas pu sortir en Russie pour une raison assez simple, c'est que Serebrennikov est désormais blacklisté, il s'est exilé en Allemagne et que la version qu'il propose de Tchaïkovski est une version totalement rebelle et qui n'entre pas, qui n'épouse pas du tout le moule de la propagande habituelle des grands hommes russes, puisqu'on montre très clairement l'homosexualité de Tchaïkovski. Autre film absolument magnifique et qui lui non plus n'a pas pu sortir en Russie et qui est sorti de façon très confidentielle en France parce que plus personne ne veut le promouvoir, c'est Le Capitaine Volkonogov s'est échappé, qui est un film lui aussi sur l'histoire. Donc c'est intéressant de voir que ce sont des films sur l'histoire qui parlent en fait du présent, hein, ce qui est assez classique dans l'histoire du cinéma russe et soviétique. Le Capitaine Volkonogov s'est échappé, c'est un film sur les purges staliniennes, hein, les purges de 37-38 et qui adopte un point de vue très particulier, justement d'un homme qui est au cœur de la machine, qui fait partie du NKVD, donc qui fait partie de la police politique, qui est lui-même l'un des assassins, et qui prend conscience qu'il va lui-même être happé par la machine, et à partir de ce moment-là, il y a une prise de conscience morale qui s'opère, et on suit ce personnage. Le film, évidemment, n'a pas pu sortir en Russie, et personne, c'est ça qui est extraordinaire, personne n'a voulu le promouvoir, y compris à l'étranger. Donc le film est sorti en France.
Et pourquoi ?
Parce que c'était trop dangereux, alors qu'il est interprété par l'un des plus grands acteurs actuels, Borisov, qui est un acteur sublime, jeune acteur extraordinaire.
J'imagine que lui non plus ne vit plus en Russie.
Il lui vit en Russie, mais lui ne parle plus. Voilà, c'est ce qu'on appelle en Russie vivre en sous-marin. On vit dans son pays, mais on ne dit plus rien. Voilà, on ne dit plus rien, on est réduit au silence. Et le troisième autre film magnifique, c'est un film de Sergei Loznitsa, qui lui est ukrainien et qui vit à Berlin. Et c'est un film qui s'appelle Babi Yar Context. Et c'est un film sur... Alors c'est un film très particulier qui utilise des images d'archives et qui lui est consacré au massacre de Babi Yar, c'est-à-dire un des très grands massacres opérés par les nazis en Ukraine en 1941, au moment où les nazis pénètrent de façon absolument fulgurante en Union soviétique et entame clairement le génocide des Juifs. Et donc c'est un film sur cet épisode de la fin septembre où en deux jours les nazis ont exécuté 33 781 Juifs à côté de Kiev.
Natacha Laurent, vous en parlez avec beaucoup de passion. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On Air est une production de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, portée par le Centre de promotion de la recherche scientifique, le service communication et le pôle production Le Vidéographe de la Maison de l'Image et du Numérique de l'UT2J, à la réalisation Cédric Perronnet du pôle production Le Vidéographe. On Air est diffusé sur Miroir, le web média de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, et est accessible via le site www.univ-tlse2.fr de l'université. Vous pouvez aussi retrouver On Air sur les différents comptes de l'UT2J et sur les plateformes numériques. On Air.